semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 18 juillet, nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements sur la planète avec la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site de la radio www.rfi.fr. Dans un instant, destination l'Iran notamment et la Grèce. Et tout à l'heure après le flash, nous reviendrons sur les grands titres de l'actualité africaine. Rendez-vous également avec vos messages. L'Érythrée va être au cœur de ce numéro avec notre invité Franck Guéry, co-auteur de Érythrée, un naufrage totalitaire au PUF. Bonjour Franck Guéry.
Bonjour.
Vous avez écouté, c'est un groupe érythréen que nous écoutons en ce moment même. Érythréa's Gold Soul, c'est le nom de son dernier album. Et le groupe s'appelle Asmara All Star, vous connaissez, non?
Oui, un peu, c'est ouais. Très beau.
Parce que l'Érythrée, c'est aussi de la musique.
Absolument.
Alors, on va beaucoup parler de politique. Alors vous êtes ingénieur, diplômé de Sciences Po. Et vous avez donc écrit avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer ce livre très très intéressant, Érythrée, un naufrage totalitaire au PUF. Et vous signez aussi un livre de photos aux éditions Non-Lieu, car l'Érythrée c'est aussi un pays, des habitants, des paysages, etc. Donc vous avez une vision complète de ce pays que l'on qualifie désormais de Corée du Nord de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec cette définition?
C'est une simplification qui permet peut-être de la cataloguer quelque part. C'est vrai qu'il y a des similitudes avec la Corée du Nord, notamment dans le fait que c'est un totalitarisme. Mais néanmoins, il y a des grandes différences aussi, des différences de taille, par exemple. Hein, c'est pas le même niveau de population, des différences géopolitiques aussi. Et puis, il n'y a pas de totalitarisme dynastique comme dans le cas de la Corée du Nord. Et surtout, il n'y a pas d'armes nucléaires, qui change aussi la donnée de la prise en compte du pays de l'un par rapport à l'autre.
Finalement, la seule ressemblance, Franck Guéry, ça pourrait être le renfermement, en fait. L'enfermement de la population, peut-être?
Oui, parce que l'expérience totalitaire impose d'assurer un scellement du pays. Mm-hmm. C'est ce qu'on explique. Donc, on retrouve ça. Il y a aussi le Turkménistan qui est un peu dans le même ordre de régime. Et effectivement, il y a cette même dimension de fermeture. Mais là encore, c'est une différence entre Corée du Nord et Érythrée. C'est que la Corée du Nord parvient plutôt bien à gérer sa frontière, aussi parce que les voisins le souhaitent. L'Érythrée, en revanche, et c'est en ce sens notamment qu'on dit que c'est un totalitarisme failli, n'y parvient pas parce qu'elle a 1000 km de côte de la mer Rouge et puis des voisins qui ne souhaitent pas forcément fermer la frontière et beaucoup de frontières par rapport à la Corée du Nord.
Alors, tout de suite, quelques mots de présentation de ce pays. Vous parliez de la population à l'instant. Combien d'habitants à peu près? 3,5 millions, on dit en général?
Oui, alors c'est très difficile à dire parce que les chiffres sont peu disponibles. Il y a entre 3 et 3,5 millions, même si certaines estimations vont jusqu'à 6 millions, mais il y a énormément d'Érythréens qui ont fui le pays ces dernières années.
C'est ce qui fait aussi l'actualité de ce pays, et là, c'est le nombre, j'allais dire, quasi quotidien de réfugiés, d'Érythréens qui quittent leur pays.
Absolument, ils fuient en 10 ans, on estime qu'il y a eu 305 000 personnes entre 2003 et 2013 qui ont fui l'Érythrée, ça représente donc entre 5 à 10% de la population, ce qui est énorme, et puis on estime aujourd'hui qu'il y a au minimum 5 000 personnes qui quittent et qui fuient le pays, qui s'évadent parce qu'ils risquent leur vie en quittant le pays. Donc ils fuient quelque chose, ils fuient un totalitarisme, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer.
Alors l'Érythrée va être, grâce à vous, au cœur de cette émission, mais il nous faut parler de l'actualité dans cette émission, et notamment parler de l'événement majeur de cette semaine, et peut-être de l'année, sait-on jamais, l'accord signé mardi entre les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne d'un côté, et l'Iran sur le nucléaire. Envoyé spécial à Vienne, là où ont eu lieu les dernières négociations. Sami Boukhalifa.
Cet accord sur le nucléaire iranien tout juste adopté repose sur trois piliers. Une limitation du programme nucléaire de l'Iran pendant au moins 10 ans, une levée des sanctions internationales contre l'Iran et un renforcement des contrôles. Tout le monde y trouve son compte. Le programme nucléaire iranien ne sera pas démantelé mais limité, avec un principe majeur désormais gravé dans le marbre. Sous aucune circonstance, l'Iran ne développera ou n'acquérera une arme atomique. Cette phrase, voulue par Paris, figure désormais dans le préambule du texte de l'accord. Et pour veiller veiller à son respect. Le programme nucléaire iranien est donc encadré et surveillé de très près. Les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pourront inspecter les sites iraniens, même militaires. Il y aura aussi le snapback, un processus de réversibilité. En cas de manquement à ses obligations, la République islamique sera de nouveau sanctionnée. Il suffira juste que l'un des pays des 5 plus 1, les grandes puissances, déclenche ce processus.
Écoutons maintenant deux réactions après cet accord, celle d'abord du président iranien Hassan Rouhani.
Pour moi, la mise en place de cet accord est le début d'un examen en commun. Si cet accord est mis en place de manière juste, on pourra, étape par étape, recréer cette confiance. Aujourd'hui, c'est une fin et un début. C'est une fin pour les sanctions injustes et injustifiées envers le grand peuple d'Iran. Et c'est un début, un commencement pour un nouvel élan, pour une collaboration mondiale.
Autre réaction après l'accord signé mardi, celle du président américain Barack Obama.
Aujourd'hui, après deux années de négociations, les États-Unis avec nos partenaires internationaux ont réalisé quelque chose que des décennies d'animosité n'avaient pas réussi à faire, un accord complet sur le long terme avec l'Iran qui l'empêchera d'obtenir l'arme nucléaire. Cet accord montre que la diplomatie américaine peut apporter des changements véritables et importants, des changements qui rendent notre pays et le monde plus sûrs.
Alors, Franck Guéry, cet accord sur le nucléaire a soulagé, vous le devinez, la population iranienne. Téhéran, mercredi, Diavash Ghazi.
En voiture ou à pied, avec des drapeaux tricolores, rouge, blanc et vert, mais aussi des posters de Mohammad Javad Zarif, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue tard le soir pour fêter l'accord sur le nucléaire qui met fin à 12 ans de crise. Sur les principales places et avenues de la capitale, mais aussi dans les villes de province, on a vu les mêmes scènes de liesse populaire. Le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu directement de Vienne à la ville sainte de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, où se trouve le mausolée de l'imam Reza, le 8e successeur du prophète, vénéré par les musulmans chiites. Là encore, des milliers de personnes l'attendaient à la sortie de l'aéroport pour saluer son exploit. Zarif a expliqué qu'il avait fait le vœu d'aller se recueillir au mausolée de l'imam Reza en cas d'accord sur le dossier nucléaire. Dès hier, le président Hassan Rouhani a déclaré que tous les objectifs de l'Iran ont été atteints. L'accord permet en effet à l'Iran de maintenir son programme nucléaire avec certaines restrictions, mais il pourra le relancer au bout de 10 ans. À court terme, l'Iran obtient la levée des sanctions économiques internationales qui frappent durement son économie. L'accord permet aussi à l'Iran de normaliser ses relations avec le monde extérieur.
Suite d'une semaine d'actualité, nous repartons pour l'Érythrée grâce à Franck Guéry qui a écrit avec Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer « Érythrée, un naufrage totalitaire », un livre extrêmement intéressant. Vous analysez l'évolution, l'histoire de ce pays et les caractéristiques politiques de ce pays qui est indépendant depuis 1993.
Absolument. Hein,
et oui. Qui est devenu indépendant après 30 années de guerre.
Tout à fait, 30 années de lutte, en fait, de 1961 à 1991, puisque l'ONU avait décidé en 1950 faire en sorte que l'Érythrée soit un État fédéré à l'Éthiopie. Finalement, c'est devenu une annexion 10 ans plus tard, et c'est ce qui a déclenché la lutte armée, la rébellion, qui a duré 30 ans dans un contexte de guerre froide. Ça s'explique parce que, évidemment, l'Éthiopie était soutenue par l'URSS de façon démesurée. On trouve encore à Asmara, d'ailleurs, un cimetière de tanks hein, qui témoigne de la dureté de ce conflit. Et au bout de 30 ans, finalement, au moment où l'URSS s'effondre, hein, en 1991, le mouvement rebelle finit par arriver au pouvoir. Mais il faut indiquer aussi que pendant toute cette période de lutte, le mouvement rebelle déjà portait en lui les germes de ce totalitarisme.
C'est ce que vous expliquez dans le livre, vous parlez de germes du totalitarisme dans cette époque, 1961-1991, avec l'émergence de ce parti unique, le Front Populaire de Libération de l'Érythrée.
Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs eu une guerre interne entre le FPLE et le FLE, qui a été assez terrible. Et puis, on a des témoignages de l'époque sur la dureté et le caractère totalitaire déjà de ce mouvement de rébellion, le FPLE. dont parle Gérard Chalian, dont parle Jean-François Deniau, qui avait été sur le terrain. Et effectivement, ce mouvement voulait contrôler un petit peu la vie de ses membres. Il y a eu aussi des purges politiques très dures, hein, avec des exécutions dont on parle et qu'on cite dans l'ouvrage.
Alors, qui dit Franck Guéry, État totalitaire, dit homme fort, voire dictateur. Donc, par définition, là, il s'agit d'un homme qui s'appelle Isaias Afewerki.
Absolument. C'est un homme qui s'est engagé assez tôt. C'est lui qui a fondé notamment le FPLE avec d'autres. Il a passé quelques mois en Chine à apprendre la guérilla maoïste, par laquelle il continue à être inspiré par cette idéologie. Et la façon dont il est décrit, c'est qu'il est intelligent et manœuvrier. Il est brutal et très rapide dans l'exécution de ses opposants. C'est ce qui fait qu'il est monté et qu'il a toujours été au centre un petit peu du mouvement rebelle. Et ensuite qu'il a donc été mis à la tête de l'État, et peu à peu, on a assisté à une dérive totalitaire avec différents moments.
Et alors, c'est ça qui est intéressant, aussi. C'est ce que vous décrivez et analysez dans le livre. Effectivement, Franck Guéry, vous dites par exemple que dans la période 1991-2001, il n'y avait pas encore cet État totalitaire. Il y avait une phase que vous appelez une phase de croissance.
Oui, tout à fait. Il y avait déjà cette vision-là de contrôle, mais pour assurer le totalitarisme, il faut un certain nombre d'ingrédients. Il faut pouvoir assurer l'expérience totalitaire. Et en fait, c'est un moment particulier qui va permettre d'aller plus loin dans le contrôle. C'est la guerre avec l'Éthiopie entre 98 et 2000, une guerre terrible. On parle parfois de Verdun sous le soleil, des guerres de tranchées, absolument, avec des dizaines de milliers de morts. Mais cette guerre, elle va permettre ensuite de justifier l'état d'urgence. C'est un peu comme dans le roman 1984, il faut une menace permanente pour légitimer un état d'exception.
C'est l'alibi de la terreur. D'un état totalitaire, en fait, cette menace permanente.
Oui, tout à fait. C'est ce qui permet dans le discours de légitimer le fait qu'il faut une mobilisation, que la constitution n'entre toujours pas en vigueur. Donc c'était déjà le cas dans les années 90. On avait déjà des éléments totalitaires. Mais vraiment, le précipiter, le moment, c'est 98-2000, puisque suite à ça, il y a une contestation suite à cette guerre, parce que certains disent qu'elle a été malmenée, donc au sein du régime, il y a une contestation. Et là, de la même manière, le président et ses alliés vont très vite réagir. Et il va y avoir une purge politique terrible, une purge de tous les médias, et ça va se passer juste après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire le 18 septembre 2001, dans l'indifférence médiatique générale, et c'est à partir de là qu'on a une croissance ensuite. Il y a cette purge politique et médiatique, ensuite un an après, est mis en place le service national à durée indéfini, indéterminé, et ce qui crée vraiment un contrôle total. Donc voilà, et c'est la nature du totalitarisme, pour expliquer en quoi on parle de ce concept, c'est que c'est un mouvement qui a l'unicité comme fin, l'unicité de la fusion de tous les pouvoirs, la fusion de la société dans l'État, donc le démantèlement du secteur privé, etc. Et puis la terreur comme moyen. La terreur avec des rafles, y compris la nuit, la torture, et donc c'est ce à quoi on assiste dans ce pays.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons quitter un instant l'Érythrée, nous partons pour la Grèce. Maintenant, Franck Guéry, après un autre accord signé lundi entre le Premier ministre Alexis Tsipras et les autorités européennes, un accord qui va aggraver l'austérité dans le pays. Écoutez comment le Premier ministre grec a parlé de cet accord mardi.
En ce qui me concerne, je veux faire en sorte que le choix que j'ai fait hier avec un couteau sous la gorge soit mis en œuvre. Je n'ai aucune raison de vouloir des élections anticipées. Tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, aussi bien en dehors du parti au pouvoir qu'en son sein. Quand toutes ces aventures seront terminées, et notamment celle de l'accord avec les créanciers, nous verrons bien s'il y a une majorité sociale ou pas.
L'accord a été approuvé mercredi à Athènes par le Parlement grec dans un climat très tendu. Envoyé spécial Romain Lemarasquier.
Il aura été nécessaire plus de 4 eurodéputés pour enfin procéder au vote et parvenir à ce résultat positif. Cette session plénière a été haute en couleurs, tout d'abord avec le départ au bout de 10 minutes de Zoé Constantopoulou, la présidente du Parlement, qui s'oppose à ces mesures. La présence de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, a également été très remarquée. Il a d'ailleurs voté contre ces mesures. Le Premier ministre Alexis Tsipras, lui, n'est arrivé qu'à la fin de la séance, à minuit 40 pour être exact. Dans son discours, il n'a pas hésité à réaffirmer affirmé que la Grèce fournirait les efforts nécessaires pour appliquer des mesures auxquelles il ne croit pas. Un discours longuement applaudi par les députés de son parti Syriza. Alexis Tsipras est parvenu à convaincre son camp, ce qui semblait impossible quelques heures auparavant. Le premier ministre grec a d'ailleurs tenu à souligner que la Grèce avait montré sa solidarité avec l'Allemagne à l'époque où l'Allemagne était endettée envers la Grèce en effaçant cette dernière. Du côté de l'opposition, les critiques ont été nombreuses, à l'image d'Evangelos Venizelos, député des socialistes du PASOK, qui n'a pas hésité à accuser le premier ministre grec d'avoir fait traîner en longueur les négociations avec les créanciers à cause des divisions au sein de son parti. 5 mois de perdus qui ont un coût terrible pour le pays, a-t-il martelé. Reste que l'accord avec les créanciers a enfin été validé. On verra dans les jours qui viennent si Alexis Tsipras devra procéder à un remaniement de son gouvernement en écartant notamment les ministres opposés à ces mesures.
Et remaniement, il y a eu. Continuez à suivre la crise grecque dans nos journaux et sur le site de la radio RFI.fr. Suite d'une semaine d'actualité, nous allons continuer à parler de l'Érythrée dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure, mais je voudrais qu'on conclue cette première partie en parlant toujours de ce pays refermé, replié sur lui-même. Il y a eu beaucoup d'exilés politiques, notamment, et des tentatives d'informer sur la situation dans le pays de la part des Érythréens, car il y a à Paris, il faut en dire un mot, je pense, d'une radio qui s'appelle Radio RNA, vous la connaissez, non ? C'est une radio qui diffuse sur satellite et sur Internet.
Oui, c'est très important parce que ça permet aux Érythréens d'avoir accès à une source d'information, et c'est fondamental parce que le totalitarisme vise à isoler sa population de toute source d'information extérieure. Donc ouais. C'est fondamental.
Et c'est la difficulté, il faut le rappeler, il n'y a pas de journalistes en Érythrée.
Non, tout à fait, c'est le pire pays d'après le classement de Reporters sans frontières. Donc il n'y a pas de presse indépendante sur place, pas du tout.
Alors ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Érythréens qui vivent à l'étranger, et ça
absolument.
Depuis des années aussi.
Oui, puisqu'il y a eu cette guerre d'indépendance de 61-91, il y a eu la guerre avec l'Éthiopie de 98 à 2000, donc il y a eu beaucoup de déplacés. On estime que c'est un état diasporique, l'Érythrée, en fait, et il y a entre un tiers et la moitié de sa population qui vit à l'étranger.
Oui, ce qui est énorme.
Donc c'est énorme.
À peu près 2 millions dans le monde entier et 300 000 en Afrique spécifiquement, c'est ça, c'est le chiffre qui revient le plus souvent.
Oui, il y a des estimations effectivement, et puis ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le régime a besoin aussi de cette diaspora qui aide les populations sur place, qui sans ça serait dans une situation encore pire.
Et ces migrants donc qui s'ajoutent à cette population et qui fuient par tous les moyens l'Érythrée.
Oui, tout à fait, puisque l'espoir est derrière la frontière, il n'y a plus d'espoir. Quand on est dans ce pays avec un service militaire à durée indéterminée, indéfinie, sous-payée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vivre une famille, où est l'espoir ? Il n'existe plus, il n'y a plus de perspective, et donc ces Érythréens décident de fuir au risque de leur vie en traversant la frontière, et puis au risque de leur vie encore en traversant les déserts, où ils sont parfois abandonnés dans le Sahara, en traversant la Libye, qui est maintenant dans un état catastrophique, et puis encore en traversant la mer Méditerranée, où ils risquent à nouveau leur vie.
Parce que vous rappelez dans votre livre que l'ONU classe l'Érythrée à la 182e place sur 187 dans l'indice du développement humain.
Oui, tout à fait.
182e sur 187.
Oui, absolument, parce que c'est un échec économique, c'est-à-dire cette expérience totalitaire de fermeture des frontières, de contrôle de l'État dans tous les domaines, en plus d'un État qui est plutôt incompétent, parce qu'il n'assure pas la formation de ses cadres, il ne fait confiance qu'aux anciens combattants, l'université a été fermée, démantelée au profit de centres régionaux, donc c'est ce qui explique aussi que cet État est en état de déliquescence, parce qu'il n'a pas préparé l'avenir.
Oui, c'est ça, on reviendra tout à l'heure sur l'avenir, c'est toute la difficulté aujourd'hui. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un pays dirigé par un parti unique, voire même par un homme.
Oui, alors, un parti unique, c'est sûr, un homme aussi, puisque c'est pyramidal. Après, il y a quelques personnes qui ont intérêt à ce que le système se maintienne. Et puis, il y a un équilibre de la terreur. C'est-à-dire que quand on est dans un système comme ça, et notamment au niveau de l'armée est découpée en 5 zones avec des généraux qui se détestent les uns les autres, qui sont surveillés. Et donc, il y a un équilibre de la terreur, y compris pour défendre le président. Il y a plusieurs milices qui sont équilibrées les unes par rapport aux autres pour éviter qu'il y ait un changement.
Franck Gouéry, nous allons vous retrouver dans 3 minutes. Je rappelle que vous avez écrit avec Jean-Baptiste, Jean-Gène, Villemer, Érythrée, un naufrage totalitaire. On se retrouve donc dans quelques minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures. A tout de suite. merci. Pour toutes ces informations, on se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Notre invité s'appelle Franck Gouéry, avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Il a écrit « Érythrée, un naufrage totalitaire », un ouvrage publié au PUF. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, destination le Burkina Faso et le Niger, notamment. Rendez-vous aussi avec vos messages. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant sur l'actualité française et le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. 14 juillet, doit-on le rappeler, jour de la fête nationale. Guilhem Daltaï.
Ils étaient juste après les écoles militaires, en milieu de cortège des troupes à pied. L'avenir de l'armée française, suivi immédiatement de son présent, les opérations Sangaris en Centrafrique, Barkhane au Sahel et Chamal en Irak, étaient représentées sur les Champs-Élysées. Représentées par l'état-major de la 1ère brigade motorisée pour Sangaris, des parachutistes du 1er RCP et du 3e RPIMA pour Barkhane et l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle pour la 3e. Et première cette année, le 28e groupe géographique a également descendu les Champs-Élysées. C'est lui qui recueille les informations topographiques et analyse le terrain des différents théâtres d'intervention de l'armée française. Un travail indispensable aux troupes combattantes. Ce 28e groupe géographique est présent dans toutes les opérations extérieures. Et puis, autre intervention de l'armée française, la lutte contre Ebola en Guinée. Depuis le mois de janvier, elle est présente au centre de traitement des soignants de Conakry et les pompiers de Paris, le service de santé des armées ainsi que le 2e régiment de Dragons déployés sur place ont également fait la descente de la célèbre avenue parisienne.
Autre rendez-vous traditionnel du 14 juillet, l'entretien télévisé avec le président à la mi-journée, Florent Guignard.
Vous en connaîtrez, j'espère, des présidents aussi audacieux que moi.
Hollande, le président de l'audace qui réforme comme jamais, interview parfois en forme d'autosatisfaction pour un chef d'État tout auréolé d'avoir sauvé la Grèce et l'Europe ce week-end. Président protecteur, c'est sa ligne de conduite pour les années à venir.
Je dois veiller à emmener la France, et donc à se protéger, à être en sécurité, à être plus forte économiquement, mais à garder ce qui fait son âme. Il y a une âme française.
François Hollande commencerait-il à roder ses thèmes de campagne pour la prochaine présidentielle ? Il ne sera candidat, dit-il, que si le chômage baisse.
Mais s'il n'y a pas de résultat, mais pourquoi il me fait confiance pour 5 ans de plus ? Je sais pas, pour m'accrocher. Est-ce que j'ai pris toutes les décisions qu'il me paraissait important d'engager ? Eh bien, je répondrai... oui, à la fin de mon quinquennat.
Le faux suspense continue. François Hollande, qui s'identifie beaucoup au pays qu'il préside, défend une France tournée vers l'avenir.
C'était pas mieux avant. Et donc, moi, je ne suis pas pour la France crispée, je ne suis pas pour la France enfermée, je ne suis pas pour la France rabougrie, je ne suis pas pour la France qui voudrait se diviser. Ça, je laisse ça à d'autres.
Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, mais le sujet Sarkozy, dit-il avec une pointe de mépris, n'est pas sur ma table de travail, en tout cas pas encore.
Une semaine d'actualité.
Franck Gouéry, nous sommes doucement passés de Paris à Asmara avec cette chanteuse, cette voix que l'on entend, celle de la chanteuse Fetinga, qui est une ancienne combattante de l'indépendance érythréenne. Et d'ailleurs, vous notez dans votre livre que 30% des combattants d'indépendance étaient des femmes.
Tout à fait, ouais, absolument. Les femmes font partie intégrante de la lutte de 1961 à 1991. Et il y a toujours une égalité homme-femme revendiquée, ce qui n'est pas forcément une chance dans ce régime, puisque ça veut dire qu'elle n'échappe pas au service national à durée indéfinie et indéterminée. Donc là, ça crée des problèmes et certaines, pour échapper à ce service, essayent d'avoir un enfant avant d'entrer dans le service, c'est-à-dire avant 18 ans. Donc, ce qui crée aussi d'autres problèmes.
Alors, si je vous comprends bien, Franck Gouéry, c'est cet État érythréen qui vit sur la menace en fait extérieure, est un État militarisé. D'évidence.
Oui, tout à fait. On estime qu'il y a environ 400 000 conscrits en tout et pour tout, ce qui pour une population de 3 à 3,5 millions d'habitants est vraiment important. Et pourquoi ? Parce que ça, c'est bon, évidemment, l'argument, c'est que c'est la menace extérieure qui le justifie. Donc, c'est la menace permanente de la guerre, de la situation ni guerre ni paix avec l'Éthiopie.
D'ailleurs, vous rappelez, Franck, dans votre livre Jean-Baptiste, que l'Érythrée a fait la guerre avec tout le monde quasiment.
Tout à fait, parce que à partir du moment où l'indépendance était réalisée, il y avait une absence de cause pour ce mouvement. La cause, c'était l'indépendance. Comment perpétuer son pouvoir? Comment justifier la mise en place d'un régime totalitaire? Eh bien, la guerre est devenue la politique étrangère du pays. Donc, il y a eu des conflits avec tous ses voisins, même si maintenant la situation est plus calme et son meilleur allié, c'est le Soudan. Mais sinon, il y a eu des guerres ou des conflits avec tout le monde. Et ce qui permet d'expliquer au niveau du discours que le pays est en danger et que ça légitime un petit peu l'état d'exception, le fait que la constitution soit pas mise en place, et avec un discours sur l'autosuffisance aussi, qui a permis de légitimer l'expulsion de toutes les ONG dans les années 90, puis dans les années 2000, après la guerre, le démantèlement du secteur privé. Donc il n'y a plus de secteur privé, il y a surtout des entreprises public, associé au parti, et donc petit à petit on arrive à ce qu'on qualifie nous avec Jean-Baptiste de totalitarisme failli, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les caractéristiques du totalitarisme comme on l'imagine, mais néanmoins ce concept est opératoire, parce qu'on ne peut pas l'enfermer historiquement complètement, ni le dilater dans le présent en l'utilisant à tort et à travers, mais là il nous paraît légitime.
Alors sur quoi repose l'économie de l'Érythrée?
Eh bien, il y a un certain
nombre... L'agriculture
Oui, tout à fait. Il y a 80% de ceux qui travaillent qui sont dans l'agriculture, mais ça ne représente que 17% du PIB. Donc, ce qui est très faible, et ce qui explique aussi la position, parce que c'est un échec économique avec le problème des frontières. Pour passer d'une région à l'autre, il faut avoir des autorisations. Et puis surtout, les forces vives de la nation sont dans le service militaire. Donc, il n'y a plus de secteur privé, il n'y a plus d'initiative. D'initiative privée qui permettrait de réaliser le potentiel économique. Et donc, on a 60% à deux tiers des Érythréens qui souffriraient de la faim. Donc il y a une situation de malnutrition.
Un pays totalitaire, mais qui est reconnu depuis son indépendance par l'ONU, qui n'est pas paria, en fait, sur le plan diplomatique.
Ça se discute, parce que effectivement, au départ, en tout cas dans les années 90, il était vu comme un état de la renaissance africaine. C'est comme ça qu'il avait été qualifié.
Comme le Soudan du Sud, récemment, d'ailleurs.
Et donc, quelque part, il y avait beaucoup d'espoir que l'Érythrée devienne la Singapour de l'Afrique. C'était d'ailleurs la vision de certains à l'époque. Et puis, petit à petit, cette tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir conserver le pouvoir, a amené à cette dérive, au démantèlement des ONG qui assuraient plus de 80% de l'apport de calories dans les années 80 et 90.
Pour rappeler ce chiffre que vous donniez à l'instant, hein, plus de 60% de la population malnutrie.
Tout à fait. Ouais. Donc on a cette dérive, ça allait encore bien dans les années 90, et puis ça s'est complètement dégradé. Ensuite, l'Érythrée se voit comme un état paria, néanmoins. Il l'est dans une certaine mesure, parce qu'il a été accusé d'aider les Chebabs en Somalie, considérant que les ennemis de ses ennemis étaient ses amis, l'Érythrée a eu un rôle de déstabilisation régionale, même si on remet ça un peu en cause actuellement. Donc il y a eu des sanctions internationales qui ont été votées contre à l'ONU contre l'Érythrée, mais aujourd'hui tout ça est questionné sous l'angle de l'aide apportée ou pas au Chebab.
Alors parmi les sujets d'inquiétude qui concernent l'Érythrée que vous développez dans le livre, il y a ce que vous appelez l'inquiétant clivage ethno-religieux. Ça veut dire que le pays peut imploser?
Disons qu'aujourd'hui, on a un couvercle totalitaire qui, avec un contrôle partout, et puis pour préciser aussi sur l'aspect totalitarisme, on a aussi beaucoup de délation sur place. C'est-à-dire que les gens sur place ont peur. Ils ont peur parce que l'arrestation, elle ne concerne pas juste les opposants politiques, comme ce serait le cas dans un régime autoritaire. Tout le monde peut être arrêté pour une cause dont ils ignorent.
10 000 prisonniers politiques.
Voilà, 10 000 prisonniers politiques, mais donc pas seulement des prisonniers politiques. On peut être arrêté à tort et à travers, être dénoncé par sa famille, par ses proches, parce qu'il y a un système de délation et le système judiciaire, évidemment, est totalement arbitraire.
Et je reviens, Franck, sur ce risque d'implosion. Il est réel aujourd'hui. Vous parlez de clivage ethno-religieux. Alors, vous nous rappelez qu'il y a en gros 9 groupes ethno-linguistiques en Érythrée, avec une majorité de Tigréens.
Voilà, une majorité de Tigréens, plutôt sur les hauts plateaux, chrétiens orthodoxes. Après, on a d'autres ethnies, plutôt musulmanes pour certaines d'entre elles, en tout cas. Et il y a un déséquilibre démographique lié à la fuite des Érythréens, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui fuient qui sont chrétiens orthodoxes, moins de musulmans. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où le pays ne sera plus un totalitariste ni un autoritariste, qu'on peut lui souhaiter, et est-ce que des tensions reviendront? Il faut se rappeler, on discutait tout à l'heure des grosses tensions à l'époque de la guerre de rébellion de 61-91 entre la FPLE et la FLE, chacun ayant une dominante plutôt chrétienne orthodoxe ou musulmane. Est-ce que que ça va revenir et comment ça va se passer, puisqu'il y a eu une espèce de guerre à l'époque. Donc il n'est pas impossible que ces tensions reviennent dans le futur. Donc c'est ce pourquoi il faut aussi s'intéresser à ce pays et à son devenir. Il ne faut pas oublier non plus que le Yémen et Al-Qaïda dans la péninsule arabique sont pas loin des côtes érythréennes. Donc à partir du moment où le couvercle totalitaire sera relevé, il y aura des influences, il y aura de nouveau des mouvements, et donc il faudra voir comment tout ça évolue.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons continuer notre voyage africain, Franck, avec une première étape à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme chacun sait, où les députés ont voté jeudi la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de Justice, Olivier Roger.
Le CNT, le Parlement de Transition, n'a pas fait dans la demi-mesure. L'ancien président Blaise Compaoré est accusé de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Tous les membres de son dernier gouvernement, ceux qui étaient présents lors du Conseil des ministres du 21 octobre 2014, ont été accusés d'assassinat et de coups et blessures volontaires ou de complicité. C'est lors de ce Conseil des ministres que le projet de révision constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres avait été adopté. 60 des 63 membres du CNT présents lors de la session de ce jeudi ont voté ces mises en accusation. Les députés représentant l'ancienne majorité n'avaient pas pris part au vote. Pour le président du CNT, Chérif Sy, ces mises en accusation reposent sur la base d'enquêtes qui proviennent du parquet. Le dossier va désormais être transmis via la Cour de cassation à la Haute Cour de Justice, seule compétente pour juger les crimes et délits commis par un président et ses ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Cette instance doit désormais confirmer les poursuites et demander aux autorités politiques l'extradition de Blaise Compaoré. Celui-ci vit en exil en Côte d'Ivoire, il s'est envolé ce jeudi matin pour le Maroc afin d'y soigner une blessure au fémur consécutive à une chute.
L'actualité africaine, c'est aussi la situation politique au Burundi. On vous en parle bien sûr dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité au Rwanda, cette fois, où l'on s'achemine vers un troisième mandat pour Paul Kagame après l'accord du Parlement qui s'est réuni mardi. Correspondance de Stéphanie Aglietti.
De mémoire de Parlement rwandais, on avait rarement connu une telle affluence. Invités à suivre les sessions, de nombreux Rwandais, parfois arrivés par bus entier, ont répondu présents. Comme Eugénie, une fonctionnaire qui a eu droit avec ses collègues à une matinée de congé pour venir au Parlement.
Je viens assister à ce changement de la rhétorique chrétienne, parce que moi aussi je suis d'accord. Je l'ai su par la télévision, ils disaient qu'on va parler de cette rhétorique.
Durant les deux sessions, pas de débat, mais une succession d'éloges pour le président Kagame dans ce Parlement largement dominé par le parti au pouvoir et ses alliés. Au point qu'au fil des interventions, la séance prend des airs de meeting. 3,7 millions de Rwandais ont parlé. « Nous n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits », lance un député, avant que les deux chambres ne votent à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle. Donatilde Mukabalisa est la présidente de la Chambre des députés.
La décision a été prise que la demande de la population est fondée. Donc que l'article 101 devrait être amendé selon ce que la population a demandé.
Si aucune date n'a pour l'heure été fixée, Donatilde Mukabalisa a promis, je cite, un processus rapide pour mettre en œuvre les changements. Prochaine étape, les parlementaires vont rédiger un projet de révision qui devra ensuite être voté par le Parlement avant d'être soumis à un référendum populaire.
7 jours en Afrique.
Et Franck Guéry, avant de retourner en Érythrée dans un instant, je vous propose de nous rendre dans le sud-est du Niger, dans la région de Diffa, où plus de 150 000 personnes tentent de survivre après avoir fui les exactions de Boko Haram. Parmi eux, des riverains des Nigériens du lac Tchad. Écoutez un des reportages de notre envoyé spécial, Pierre Pinto.
Ousmane a 73 ans. Il vient de Karamga, cette localité du lac qui partage l'histoire de nombreux autres villages de la région. Un matin, avant le lever du jour, une horde de plusieurs centaines d'éléments de Boko Haram déferle et massacre militaires et civils. Le 25 avril, l'attaque de Karamga avait fait des dizaines de morts. Ousmane se souvient, c'était un samedi.
On a pu quitter Karamga le jour de l'attaque. On était parti à la mosquée à 5 heures du matin pour prier. Et au moment de rentrer à la maison, l'attaque a commencé. J'ai couru chez moi pour aller chercher ma femme, les enfants et les petits-enfants. Mais une fois arrivé, ma femme était déjà partie chez un voisin avec les petits-enfants. La maison était en flammes, elle était en train de s'écrouler. Je suis parti avec rien d'autre que ce que je portais sur moi comme vêtements. On s'est enfui avec les enfants.
Quand les pillages et les coups de feu cessent, les insurgés rassemblent les villageois pour un prêche.
Dans le prêche, ils ont dit de ne pas suivre les mécréants, qu'on devait venir avec eux, qu'ils allaient nous donner à manger. Ils nous ont dit, partout où vous serez avec nous, vous n'aurez rien à craindre, parce que nous sommes d'ici jusqu'à la Libye, même jusqu'à l'Inde.
Ousmane et sa famille ont profité du prêche pour s'enfuir. 2 jours de pirogue, 3 jours de marche, puis un voyage en camion jusqu'à Kabelawa, où ils patientent, écrasés par la chaleur et l'ennui.
Suite d'une semaine d'actualité, et là nous allons revenir dans la corne de l'Afrique, Franck Guéry, avec, il y a une bonne semaine, des affrontements entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est plus ou moins mystérieux. Addis Abeba, correspondance régionale de Grégoire Portier, samedi dernier donc.
Les forces armées éthiopiennes sont connues pour leur communication minimale. Ainsi, l'annonce sommaire d'affrontements récents à la frontière avec l'Érythrée n'a pour le moment suscité aucun commentaire. Les informations fournies à un média officiel par un responsable de la police font état d'une 30aine de personnes tuées et de nombreuses arrestations. Mais on ne connaît ni la nationalité, ni les motivations de ces hommes armés tentant de rentrer clandestinement en Éthiopie. Quoi qu'il en soit, cet événement fait écho à un discours prononcé dans la semaine par le Premier ministre éthiopien. Haïlé Mariam Desalegn avait prévenu qu'il prendrait des mesures fortes si son voisin ne cessait pas ses activités de déstabilisation. Mais quelle menace pourrait représenter l'Érythrée ? Le pays est l'un des plus secrets au monde, mais semble exsangue. Et il vient encore d'être sévèrement pointé du doigt par un rapport des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme. L'enquête va même se poursuivre pour déterminer si le régime d'Asmara ne s'est pas rendu coupable de crimes contre l'humanité. L'infiltration d'hommes armés a-t-elle été commanditée par les autorités érythréennes ? Celles-ci n'ont en tout cas montré aucune volonté de rapprochement diplomatique avec Addis Abeba. Alors que l'Éthiopie accueille actuellement 135 000 réfugiés érythréens, Haïlé Mariam Desalegn avait il y a 2 ans proposé d'entamer des discussions. L'appel est resté sans réponse.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez bien sûr à nous écrire. Bonjour aujourd'hui à Tierno Ibrahima, l'abbé en Guinée. Il écrit « Je félicite les grandes puissances, notamment les 5+1 et l'Iran, pour cet accord historique sur le dossier du nucléaire iranien. J'espère, dit-il, que cet accord sera respecté et protégé par les uns et les autres. » Bonjour à Jasmine, à Mamadou, à Conakry, à Patti, à Lubumbashi, un grand bonjour à Omar Modibo, qui est étudiant à Yaoundé. Suite d'une semaine d'actualité, je cite, je lis un autre message de Jean-Laurent qui écrit ceci. Je vous écoute régulièrement tous les week-ends en République tchèque et je profite de cette occasion pour saluer tous les ressortissants du Congo-Brazzaville à travers le monde et surtout ceux qui sont au Congo sur place. Et je leur demande de ne plus accepter un pouvoir à vie du général Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, écrit-il. Alors ça me permet d'enchaîner, Franck Guéry, avec l'avenir du régime. Un régime qui est en phase terminale, écrivez-vous.
Oui, tout à fait, parce qu'il n'assure pas la reproduction de ses élites, parce que ce sont ceux qui ont participé à la lutte armée qui sont aux principaux postes de responsabilité, même si on a parfois des places un peu factices. Et donc, on a aussi toutes les forces vives qui fuient. Donc, comment assurer l'avenir ? On a une situation économique catastrophique. On a, donc, c'est pour ça qu'on parle de naufrage totalitaire avec Jean-Baptiste Jean-Jacques Villemer. On a un totalitarisme et un totalitarisme failli, c'est-à-dire qu'il a atteint son objectif qui était l'indépendance, donc il n'a plus d'objectif, il a un problème d'échelle, il n'est pas assez grand pour assurer un totalitarisme totalement accompli, il y a des éléments d'incompétence, il n'arrive pas à maintenir ses frontières, il n'arrive pas à maintenir son économie, et puis n'arrive pas à assurer le scellement du pays. Le scellement du pays, c'est ce qui permet à l'expérience totalitaire de demeurer. Et lui, il n'y arrive pas pour plusieurs raisons. Des raisons géographiques, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de frontières. Des raisons comme l'économie, qui est quasiment en faillite. On a aussi la mondialisation et le fait que les idées circulent. Donc ça permet aussi de comprendre au XXIe siècle comment un totalitarisme peut avoir des problèmes. On a aussi cette diaspora dont il est dépendant pour assurer ses fins de mois. Et puis les voisins qui veulent pas forcément aller dans son sens. Et enfin le délitement de l'armée. Donc pour toute cette raison, c'est une espèce de naufrage, un totalitarisme failli sur la conception du totalitarisme d'une part, sur le concept, et aussi d'une espèce d'état failli, même si il est loin encore d'être totalement exsangue. Donc on pense, nous, qu'il est en phase terminale, biologiquement, parce que son président a un certain âge aussi, il serait malade du foie, il aurait problèmes avec l'alcool. Tout à fait. Donc, on pense que ça devrait évoluer. La question, c'est comment et comment faire en sorte que ce pays évolue bien. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans le chaos total qui serait le scénario noir.
Mais est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, là, je pense à un tout autre continent, un tout autre contexte, le Cambodge des Khmer Rouges à l'époque. Est-ce qu'on pourrait envisager que, vous avez entendu la correspondance de Grégoire Pelletier à Addis Abeba, qu'un pays comme l'Éthiopie, l'ennemi intime, dirais-je, intervienne dans le pays pour le libérer, entre guillemets?
Il y a une relation complexe avec l'Éthiopie, donc c'est très difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Éthiopie, si elle le souhaitait, pourrait faire tomber ce régime, parce que l'Éthiopie est le géant économique à côté. Elle a les moyens militaires. On parle aussi de Chine, de l'Afrique pour l'Éthiopie, même si c'est exagéré. Mais enfin, économiquement, c'est 10% de croissance par an. Et puis, c'était le débouché naturel de l'Érythrée. Le fait que la frontière soit fermée, c'est une catastrophe économique, parce que il y a plus d'échange du tout. Donc là, il y a un vrai problème, et c'est ce qu'on explique aussi dans notre livre avec Jean-Baptiste, et que on pense que la paix avec l'Éthiopie est une des clés pour assurer la transition de ce pays et la sortie du totalitarisme. Également parce que cette situation de ni guerre ni paix, de menace permanente, permet de légitimer le discours, la mobilisation sans fin. Si on allait vers une situation de paix, les deux parties devraient aller dans ce sens-là, bien sûr, mais ça permettrait de créer un clivage à l'intérieur de ce pays entre les réformateurs et les conservateurs. Et peut-être que certains verraient un intérêt économique à ce que le pays s'ouvre. Et il y a deux autres éléments très importants, c'est la démobilisation, évidemment, puisque c'est ce qui crée le caractère totalitaire, le fait que les jeunes Érythréens puissent pas former de projets, puissent pas avoir d'espoir, que l'espoir il est ailleurs, il est pas dans le pays. Et puis l'ouverture économique, il y va un peu de pair, c'est-à-dire pour absorber ces conscrits, et puis aussi parce que ça véhiculerait des nouvelles idées, ça permettrait aux gens de se former un avenir, et puis de construire autre chose.
Mais que voulait et que veut toujours ce régime? Créer un homme nouveau, en quelque sorte?
Oui, quelque part, dans la vision des anciens rebelles, ils veulent reproduire la même génération qu'eux-mêmes, c'est-à-dire reproduire cette expérience d'isolement dans le maquis, où on est dédié corps et âme à l'Érythrée, où on est loin de sa famille, sans perspective claire, sans moyens pour réaliser ses projets personnels. On doit tout sacrifier à l'Érythrée, mais ça allait quand l'Érythrée était un projet, avec associé à ça l'indépendance et la liberté. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de liberté et l'indépendance est acquise. Donc, pourquoi ce sacrifice, en fait? Et c'est là où ça patine un peu pour expliquer aux jeunes qu'il faut sacrifier sa vie, mais pour quelle cause?
Et pour l'instant, ce qu'on retient surtout, c'est cette notion de service national à durée indéterminée.
Voilà, c'est pour ça que ces forces vives partent, que c'est 5 à 10% en 10 ans qui sont partis, et que chaque mois, on a 5 à 10 000 Érythréens qui s'évadent littéralement du pays au risque de leur vie et qui traversent et qui sont soumis au pire trafic sur la route. Il y a eu notamment un documentaire de Cécile Allegra et Delphine Deloger qui a obtenu le prix Albert Londres, qui explique voyage en barbarie, ce à quoi ils sont soumis au Sinaï. Pires tortures.
Ouais, et malheureusement, Franck Guéry, vous avez fait un livre de photos, mais c'est un très beau pays.
Un très beau pays, et aujourd'hui c'est une catastrophe politique, mais on peut espérer que demain ça devienne une destination touristique, de la mer jusqu'au ciel. Il y a des bords de mer, il y a des hauts plateaux, il y a une ville, Asmara, qui est magnifique. On pourrait parler de capitale du style en Afrique, avec des influences art déco, art nouveau, de l'architecture futuriste. C'est une ville qui a été construite par les Italiens, c'était une colonie italienne, l'Érythrée. Puis on a aussi Massawa, la perle de la mer Rouge, avec là des influences venues de Turquie, d'Égypte. Donc c'est un pays magnifique, qui a vraiment beaucoup d'atouts, entre désert, paysages de montagne. Et puis il y a aussi beaucoup de littérature à lire, de Dino Buzzati, Curzio Malaparte, Rimbaud est passé là-bas, Jean-Christophe Ruffin a écrit un roman, Asmara et les causes perdues, Jean-Claude Guibaud aussi. Donc il y a beaucoup de choses, à lire et à dire en fait, positives aussi sur ce pays dont on peut. Il faut espérer que ce soit l'avenir pour ce pays.
Merci Franck Gouéry. Je rappelle que vous avez donc écrit avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, Érythrée, un naufrage totalitaire aux éditions PUF, et un très beau livre de photos aux éditions Non-Lieu, où là on découvre véritablement le pays tel qu'en lui-même, tel qu'il est. Hein. C'est formidable. Merci d'être venu. Merci. Je voudrais aussi signaler le livre de notre confrère Léonard Vincent, bien sûr. Il s'intitule Les Érythréens. Il est publié chez Payot. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Rendez-vous demain pour le magazine Idées. Nous vous proposerons le second volet de notre émission sur Georges Balandier, une rencontre avec un des grands anthropologues français. Demain Idées, dimanche 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Zikran